le connais, toi, le prisonnier d'en bas?
Oh oui.
Tu sais qu'à cause de mon histoire de Cappadoce, je suis coincé ici depuis 14 mois. De quoi regretter d'avoir un tempérament chaud, si tu vois ce que je veux dire.
Ah oui.
Enfin, de toute façon, être ici ou garder un fortin aux frontières de l'Empire. Ah oui, le gars d'en bas. D'après ce que m'a dit Silvius l'autre jour, il traîne de prison en prison. Il est arrivé de Judée. Attends, ça doit bien faire 2 ans. Le décurion en parlait en vérifiant les listes. Inutile de préciser de quelle race il est, ça se voit.
D'accord, ça se voit. Mais avec monsieur, il faut quand même prendre des précautions. L'autre soir, en contrôlant ses chaînes, j'ai tiré un peu fort. Il m'a regardé d'une certaine façon. J'ai rien compris à ce qu'il voulait me faire saisir, mais un homme averti en vaut deux. Je me suis dit, fais attention mon garçon, il est citoyen romain et il le sait. Alors, pas de zèle. Ça pourrait te retomber dessus.
C'est vrai, il m'en impose. D'abord, c'est quelqu'un d'intelligent.
Ouais.
Il écrit sans arrêt. Et puis, il ne réagit pas comme les autres clients qui braillent tout le temps. Tiens, regarde-le. 3 lignes sur les tablettes et un long moment d'arrêt. Il pense, ce gars-là.
Ouais. Comme les gardes sont longues. Surtout entre 2 et 5. Ouais, j'ai regardé dans sa cellule. Comme ça, tu vois, pour être sûr. Eh bien, je l'ai vu à genoux. Les bras tendus vers en haut. On aurait dit qu'il priait. Un peu comme les fanas du culte d'Isis.
On aurait dit, il prie. Et même souvent. C'est là d'ailleurs que je n'y comprends rien. Je lui ai demandé, tu es juif et tu n'arrêtes pas d'invoquer un certain Christos. Il m'a répondu des salades du genre, c'était un juif comme moi. Il a été crucifié, il est mort, mais aujourd'hui il est vivant parce que c'est le fils de Dieu. Moi, tu sais, ces trucs, ça me laisse froid. J'en ai tellement rencontré des dieux dans mes campagnes.
Le moment de mon départ est venu, je le sens. J'ai combattu le bon combat jusqu'au bout. Ma course est terminée. J'ai conservé la foi. Maintenant, le Seigneur, qui est juste, me prépare cette couronne qu'il me donnera au jour fixé, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont attendu son retour avec amour.
Paul de Tarse sentait bien que le temps était venu de donner une fin à l'aventure qu'il avait conduit de sa petite ville natale à Jérusalem, en passant par Damas et les déserts de terre et d'homme. La voix qu'il avait révélée à lui-même l'avait poussé toujours plus en avant. Saül le pharisien, le pur sans compromission, venait de parcourir le monde connu, révélant aux nations que le temps des obscurités, des déchirures sans solution, avait trouvé son maître au petit matin d'une Pâque juive, Ponce Pilate étant procurateur de Judée. Beaucoup de choses qui constituaient aujourd'hui sa propre histoire, il les avait connues par la bouche des premiers compagnons du Nazaréen. Il ne pouvait oublier la silhouette massive et la barbe hirsute de ses faces que tous appelaient Pierre. Jacques, le frère du Seigneur, l'avait séduit par sa gentillesse et son sens du concret. Jean l'avait étonné par sa jeunesse, une jeunesse lourde déjà d'une maturité tranquille et d'une expérience intérieure impressionnante. Il aurait pu tous les décrire, les 12, désormais vagabonds de la bonne nouvelle. À quelques heures de la dernière promenade et du coup de glaive, les images remontaient dans sa mémoire, mêlées, somptueuses et simples, manteaux d'arlequin aux couleurs de peine et d'amour.
Dans mon premier livre, je t'ai raconté, Théophile, mon ami, tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a enseigné depuis le début de son activité, jusqu'à ce qu'il retourne auprès de Dieu. Béni soit-il. Après sa mort, le Seigneur s'est présenté à ses apôtres. Ils ont pu le voir vivant. Durant 40 jours, il leur est apparu à plusieurs reprises. leur parlant du royaume de son père.
Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce don que le Père a promis et dont je vous ai parlé. Jean du désert a baptisé dans l'eau. Vous, vous serez bientôt baptisés dans l'Esprit, l'Esprit Saint.
Seigneur, le royaume d'Israël, c'est pour maintenant?
Je ne saurais vous dire quand cela arrivera. C'est au Père à le décider. Mais soyez certains d'une chose, vous recevrez la force de l'Esprit, et vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'au bout du monde. Allez porter la bonne nouvelle à toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je suis à vos côtés. Toujours.
Le soleil se couche lentement derrière les murs de la vieille ville. Ils sont là, ébahis, les yeux levés vers un ciel sans nuages, au sein duquel la présence semble s'être dissoute. Qui est-il donc, cet être de lumière, à la fois tellement semblable au charpentier de Nazareth et tellement différent? Plusieurs d'entre eux l'ont reconnu quand ils partageaient le pain, mais son regard leur parlait d'un au-delà de toute chose qu'ils avaient bien du mal à comprendre.
Homme de Galilée, pourquoi rester là à regarder le firmament? Le Jésus que vous connaissez vous a quitté pour rejoindre Dieu, son Père. Un jour, il reviendra, comme vous l'avez vu partir.
Les séparations sont toujours difficiles, surtout lorsque les derniers jours d'amitié ont été vécus dans la plénitude. Les apôtres quittent le mont des Oliviers à deux pas de Jérusalem. Les heures douloureuses s'estompent peu à peu dans les cœurs réconciliés et la vie continue, marquée par les rythmes de la prière. Les femmes qui ont vu le tombeau vide sont souvent là avec Marie qui a rejoint, avec son maigre bagage, la maison de Jean, le disciple que son fils aimait.
Il faut que se réalise ce que l'Écriture dit au sujet de Judas. Il était des nôtres. Le maître l'avait choisi pour la même mission que nous. Je vous fais une proposition. Il nous faut trouver quelqu'un qui se joigne à notre groupe comme témoin de la résurrection. Il doit avoir vécu avec nous et avec le maître depuis le début. Deux noms sont proposés, Joseph et Matthias. Nous allons les tirer au sort. Ô Seigneur, toi qui sondes les cœurs, fais-nous savoir quel est ton choix. Matthias, viens parmi nous. C'est ta place, au nom de Jésus.
Le temple a ses bruits et ses parfums des grands jours. Pour le peuple d'Israël, c'est la fête de la Pentecôte. Les disciples du Nazaréen ont choisi de se réunir dans la maison de l'un d'entre eux. Ils sont là, quelques-uns parmi les plus proches du petit groupe des premières heures. Sans que rien ne puisse le laisser pressentir, voici qu'un bruit se met à retentir venant du ciel. Une espèce de vent impétueux, violent. La maison et ses environs se mirent à vibrer. Alors quelque chose de semblable à des langues de feu se posa sur chacun de ceux qui se trouvaient là. Ils furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en un langage nouveau que tous pouvaient comprendre. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques dizaines de minutes, ils étaient là, par centaines, devant la porte de la maison, questionnant Jacques, Jean, Matthias ou les autres.
toi, tu es galiléen. Je l'entends à ton accent. Et pourtant, mon ami qui est maître a compris.
Moi, je suis de Thrace. Et les merveilles faites par Dieu, je viens de les entendre, proclamées dans ma propre langue.
Et un pas de miracle. Ils sont tous fous, voilà l'explication.
Hommes de Judée, et vous tous qui vous trouvez dans la ville sainte, écoutez-moi bien. Je vais tout vous expliquer. Non, nous ne sommes pas sous. Mais à travers nous se réalise la prophétie du prophète Joël. Voici venir les jours, oracle du Seigneur, où j'enverrai mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront, et quiconque invoquera le nom du béni sera sauvé. Peuple d'Israël, écoute-moi. C'était pour toi que Dieu avait envoyé Jésus de Nazareth. Il l'avait confirmé par des miracles, des faits extraordinaires. Le puissant avait guéri des malades et chassé des démons par ses mains. Tout cela, personne ne peut l'ignorer. N'empêche que selon le plan de Dieu, il a été livré entre tes mains et toi, avec la complicité d'être malfaisant, tu l'as tué en le clouant sur une croix. Dieu l'a ressuscité, oui, ressuscité, il l'a délivré du pouvoir de la mort. Jésus ne pouvait être emprisonné par un tombeau. Un psaume de David l'avait prophétisé. « Tu ne m'abandonneras pas au pouvoir de la mort, et tu ne permettras pas que ton fils connaisse la pourriture. » Mes amis, David le roi est mort. Nous savons tous où est son tombeau, c'était un prophète. Ses paroles concernent Jésus, le Messie du Très-Haut. Je le répète, il est ressuscité, nous en sommes les témoins. Il est assis à la droite du Père et il a reçu de lui l'Esprit qui avait été promis. Cet Esprit, nous l'avons reçu, nous aussi. Vous avez pu le voir et l'entendre. Je vous l'affirme, mes amis, ce Jésus que vous avez crucifié, le puissant, béni soit-il, l'a fait Seigneur et Messie.
Que devons-nous faire?
Oui, que faut-il faire?
Changer de vie. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Christ. Vos péchés vous seront pardonnés et vous recevrez l'Esprit. Ce que Dieu a promis vaut pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui croient être loin, pour tous ceux que le Seigneur appellera.
Les rives du Cédron furent trop exiguës pour accueillir les foules qui demandèrent le baptême. Plus de 3000 personnes déclarèrent vouloir faire de Jésus leur sauveur et leur maître. Elles prirent l'habitude de rejoindre les apôtres dans leur maison. Là, elles écoutaient parler des 3 années vécues avec le Fils de l'homme. Le temple demeurait le lieu de leur prière. Chaque jour, les disciples de Christos se rendaient dans les parvis, joignant leur voix au chant des Lévites. Tout ce qu'ils possédaient, ils le mettaient en commun. Ils vendaient leurs propriétés et distribuaient l'argent selon les besoins de chacun. Ils faisaient la fraction du pain dans leur demeure et mangeaient ensemble dans la joie, simplement.
Vous souvenez-vous de ce que Jésus a fait la veille de sa mort? Il était à table avec nous. À un certain moment, il a pris du pain dans ses mains vénérables. Il a prononcé la prière de bénédiction, puis il a rompu le pain en disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps offert en sacrifice pour vous. » Alors que le repas allait se terminer, il a pris la coupe remplie de vin et il a dit « Prenez, buvez-en tous, dans cette coupe il y a mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, de l'alliance éternelle, un sang versé pour vous et pour tous, afin que vos péchés soient pardonnés. Faites ceci en mémoire de moi. » frères que j'aime. Chaque fois que nous mangeons ce pain, chaque fois que nous buvons ce vin, c'est la mort du Seigneur que nous annonçons jusqu'à ce qu'il revienne au milieu de nous.
La communauté des croyants n'avait qu'un seul cœur. Personne ne manquait du nécessaire. Ceux qui possédaient une chose ou l'autre ne s'en considéraient pas propriétaires et mettaient tout en commun. Les apôtres annonçaient partout avec force et conviction la résurrection de Jésus. La communauté grandissait, signe que Dieu la bénissait.
Qui ne connaissait pas Samuel, le mendiant de la belle porte du temple? Il traînait sa carcasse déformée du lever du soleil, alors que les fidèles venaient offrir les premiers sacrifices du jour, jusqu'à ce que la nuit enveloppe Jérusalem et le sanctuaire. L'infirme allait alors rejoindre la masure qu'il habitait dans la ville basse. Des générations de pèlerins lui avaient donné l'aumône. Il n'avait jamais connu d'autre métier. Quand sa mère l'avait mis au monde, son sort avait été réglé pratiquement pour toujours. Il gagnerait sa vie à apitoyer ses compatriotes sur le sort qui lui avait donné une jambe plus courte que l'autre. Depuis, il se traînait dans ses haillons. Pour Pierre, qui a définitivement quitté ses filets, pour Jean, le plus jeune des apôtres, c'est le moment de la prière. Ils se rendent au temple comme à l'accoutumée.
Mes frères, la charité pour un pauvre infirme. La charité.
Regarde-moi. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus le Nazaréen, je te dis, lève-toi. Marche.
Non, c'est pas vrai. Mais regardez donc, je marche. Miracle. Béni soit ceux qui viennent du nom du Très-Haut. Hosanna. Vous êtes des saints, mes frères. Dieu vous a entendu.
Non, nous ne sommes pas des saints. Et il n'y a pas de raison d'être étonné par cette guérison. Ni Jean ni moi n'en sommes les auteurs. Nos prières et nos pouvoirs sont trop petits. C'est Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères qui a voulu accomplir cette merveille. À travers ce que vous venez de voir, homme d'Israël, le Très-Haut a manifesté la puissance de Jésus, son serviteur. Oui, je parle du même Jésus que vous avez livré aux Romains. Vous l'avez fait condamner, lui, le saint, le juste, en lui préférant une crapule. Ensuite, vous l'avez tué, alors qu'il est l'auteur de la vie de tous. Mais Dieu l'a fait ressusciter des morts. Je l'ai revu vivant. C'est par la foi en lui que le boiteux de la belle porte a retrouvé ses forces. Jésus lui a donné la foi, et par son pouvoir l'a guéri, ici, devant vous. Je sais bien qu'en commettant le crime d'avoir livré le Messie de Dieu, vous ne pensiez pas à mal. Sans le savoir, vous accomplissiez les Écritures qui montrent que le Fils de Dieu doit souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Mais le temps est proche. Convertissez-vous. Retournez vers Dieu. Le puissant a ressuscité son serviteur. Il l'a envoyé pour que vous soyez sauvés. Oui, vous, les premiers. Il faut que chacun de vous transforme son existence mauvaise.
Au premier rang de l'attroupement, un visage attentif, très attentif. L'homme est un espion du grand prêtre. Pierre et Jean ne le savent pas. Ils sont surveillés jour et nuit jusque dans leur demeure. Au début, on riait de leurs discours et de leurs gestes. Mais depuis que les rapports mentionnent un notoire accroissement du nombre des disciples du Galiléen, le ton change.
Ça n'est plus possible. On m'a raconté qu'ils sont maintenant 5 000. Il faut enrayer ce mouvement avant qu'il ne soit trop tard.
Je les ai fait prévenir par des gens qu'ils connaissent. S'ils continuent à parler de ce Jésus qui, décidément, prend une place chez Nantes, il faut les mettre en prison.
De toute façon, il faut leur faire peur. Après, on verra. Garde,
chef.
Allez chercher les deux hommes que vous voyez. Oui, là, et mettez-les en prison.
Oui, chef.
Au nom de qui faites-vous toutes ces choses? Vous n'arrêtez pas de vous faire remarquer. Cela va vous coûter cher.
Je sais bien que si nous sommes ici devant ce tribunal, c'est parce que nous avons rendu service à ce pauvre homme en le guérissant. Mais il est important que vous sachiez aussi comment nous l'avons guéri. C'est important pour vous et pour tout le peuple. Samuel le Boiteux a été guéri au nom de Jésus, le Christ, le Nazaréen que vous avez mis en croix et que Dieu a ressuscité des morts. Personne d'autre que lui ne peut nous sauver.
Tais-toi, blasphémateur. Tes lèvres sont impures. Garde, faites sortir ces faux prophètes.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut vraiment faire attention à ces deux-là. À Jérusalem, tout le monde est au courant de leur sorcellerie. Samuel le Boiteux crie partout au miracle. Miracle ou pas, avant il boitait et maintenant il marche. Cela, personne ne peut le nier.
Moi, j'ai une proposition à vous faire. Comme il n'y a aucun motif à les maintenir en prison, relâchons-les après leur avoir interdit de prêcher au nom de leur Jésus.
Ce qui fut dit, fut fait. Pierre et Jean ne promirent rien et repartirent dans la communauté tout joyeux d'avoir souffert pour le maître.
Oh Dieu, qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Toi qui as inspiré à David, notre père et ton serviteur, ces paroles du psaume, les rois de la terre se sont entendus entre eux pour nuire au Seigneur et à son Messie. Il est vrai qu'ici, à Jérusalem, Hérode, Ponce Pilate, les païens et le peuple d'Israël ont tout fait pour éliminer Jésus, ton fils, ton serviteur, que tu as élu comme Messie.
Regarde, Seigneur, combien nous sommes en danger, et donne-nous la force d'annoncer ta parole avec courage. Fais voir à tous ta puissance. Guéris à travers nous les malades. Accomplis des prodiges et des miracles quand nous invoquerons le nom de Jésus, ton serviteur.
Au cœur du Sanhédrin, la colère gronde. Décidément, ces pouilleux de Galilée, ces pécheurs sans culture, dépassent les bornes. Il devient nécessaire de leur mettre la main dessus. Autrement, adieu l'autorité de l'Assemblée des Sages.
Maintenant, la coupe est pleine! On vous avait interdit formellement de prêcher au nom de ce Nazaréen, de ce trublion dont vous êtes les soi-disant disciples. Votre première expérience de la prison ne semble pas vous avoir suffi, n'est-ce pas? Au lieu de vous taire, vous avez propagé vos sornettes jusque dans les derniers recoins de Jérusalem. Vous racontez partout que nous sommes responsables de la mort de votre rabbi.
L'obéissance, nous la devons d'abord à Dieu, plutôt qu'aux hommes. Il a ressuscité son serviteur Jésus que vous avez supplicié. Il siège maintenant à ses côtés, notre chef et notre sauveur. Jésus est la chance du peuple d'Israël. Grâce à lui, il peut changer de vie et recevoir le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de toutes ces choses, nous et le Saint-Esprit que le Très-Haut a donné à ceux qui croient.
Sans ménagement, Pierre et Jean sont conduits dans la pièce voisine. L'assemblée est houleuse. La décision va arriver très vite. Le Sanhédrin ne peut hésiter longtemps. Son pouvoir, son influence sont en jeu.
Bon, nous sommes tous d'accord. Ces hommes sont dangereux pour la paix et l'équilibre de la nation. Ils nous reprochent d'avoir éliminé Jésus, leur prétendu Messie. Eh bien, c'est aussi ce qui va leur arriver.
Attention, mes amis, à ce que vous allez faire. Vous vous souvenez de l'affaire Théudas? On a eu peur de lui parce qu'il avait été capable de recruter 400 personnes. Cela ne l'a pas empêché de se faire prendre. Et tout s'est dégonflé comme une baudruche. Il y a eu aussi le cas Judas, en provenance de Galilée. Beaucoup sont venus à sa suite, et puis, après son exécution, plus rien non plus. Non, croyez-moi, ne vous faites pas de soucis au sujet des hommes qui ont comparu devant nous. Laissez-les repartir libres. Si ce qu'ils prêchent vient des hommes, cela retombera tout seul. Si au contraire, Dieu est de leur côté, tout ce que vous tenterez pour les détruire ne servira strictement à rien. Je vous en prie, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu.
Gamaliel a parlé. C'est un sage, respecté par tous. Sa parole a fait réfléchir des hommes, jusqu'alors prêts à tout tenter pour supprimer des gêneurs. On renvoie Pierre et Jean, après les avoir fait fouetter selon la coutume. La souffrance et la prison, loin d'apeurer les témoins de la bonne nouvelle, les ont mobilisés. Ils continuent à enseigner et à proclamer que Jésus est le Messie envoyé par Dieu.